Juste un échange pas très équilibré sur le papier. Celui qui attaque le premier va sans doute mieux s'en tirer. Pas forcément mettre à terre son partenaire, du moins pas tout de suite, mais prendre l'avantage. Pour l'instant, ils se rendent pour coup. Et voilà que l'autre lui coupe la chic, soudain d'un revers de main. Ça, on s'y attendait pas. On pensait que c'était couru. On pourrait même être un petit peu déçu parce que c'est pas ce qu'on avait prévu, mais au contraire... Bizarrement, on s'en réjouit, parce qu'on sait bien que dans ce type d'échange, en vrai, rien n'est jamais joué. Et au moment où on croit qu'il va se coucher, notre préféré, voilà qui fait preuve de panache et prend l'autre de court, un truc sorti de nulle part pour la beauté du geste. Et l'autre est surpris, mais quand même sur le coup, et ça dure plusieurs minutes. Et ceux qui assistent à cet échange sont ravis, parce que ce qui compte, c'est pas que l'un ou l'autre gagne, ce qui compte, c'est l'échange. Quand on a l'impression qu'il s'arrêtera jamais, l'échange, l'impression d'un dialogue ininterrompu, d'une conversation qui s'étire, d'un échange qui fait le pari du temps sur cette terre, qui a la grâce justement de tout ralentir quand le monde entier est en accéléré. La beauté de cet échange devant ma télé, Roland-Garros, cour centrale, un jour de finale.
Boomerang, boomerang, Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang, à quels échanges se livrent mes invités d'aujourd'hui. Depuis 20 ans, ces deux producteurs et musiciens forment un duo qui a fait les grandes heures de ce qu'on appelle la French Touch, Dreams, avec deux œufs. Leur très attendu cinquième album sort dans une dizaine de jours. Bonjour Philippe Sdard et bonjour Hubert Blanc-Francard.
Bonjour.
Bonjour Cassius, merci beaucoup d'être là tous les deux. Merci. Qu'est-ce qui fait la beauté d'un échange entre vous deux? Tiens, vous qui êtes associés depuis presque 30 ans en réalité, si on...
C'est vrai. On s'est rencontrés en studio en 91, moi, en 92 avec son père. Et bah, l'échange, ce que j'aime bien dans notre échange, en fait, c'est la célérité. Il va très vite, on fait des blagues et elle rebondit. Ça, c'est une de nos spécialités depuis longtemps. On peut s'envoyer des petits textos ou on se téléphone pendant des heures, on parle et ça va. Ça s'échange très vite et on fait à peu près la même chose avec la... On essaie de faire la même chose avec la musique.
Vous êtes en train de nous dire, que, Cassius, que vos morceaux naissent de blagues, en fait, d'échanges blagues.
Non mais c'est vrai, en fait, c'est souvent d'une blague, en fait, mais notre vie entière est une blague.
Et c'est des paroles qui fusent, que ça va à toute bombe.
Alors les paroles arrivent toujours après, parce qu'on est bien évidemment des cancres et des gens qui viennent de la musique électronique, alors tout se fabrique... comment dirais-je, empiriquement.
Et
les paroles arrivent après.
Souvent après.
Et à distance, parfois.
Là, on rentre dans une nouvelle période où on peut faire des choses à distance maintenant
grâce à la technologie.
Au grand Internet.
Au grand Internet.
Qui est très rapide.
À la fibre.
Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que vous avez une messagerie instantanée?
Non, c'est pas ça. C'est que grâce à, on peut s'envoyer des fichiers très lourds. Avant, il fallait qu'on se retrouve au studio. En fait, avant, on devait aller dans un studio. On le fait toujours. On travaille toujours à la old school pour expliquer aux gens. On a une vraie console, des gros studios, des trucs comme ça. Et puis, on se rend compte que tout ça ne sert absolument à rien parce que maintenant, on peut tout faire dans ce petit ordinateur.
Voilà, en slip chez soi, devant la fenêtre.
Comme ça
que je travaille. Oui, je travaille qu'en slip.
Moi, surtout Hubert, ouais. Hubert est spécialiste.
Ensuite, après, j'envoie un départ ou un truc à Philippe qui est fini. Et après, on se retrouve quand même à un moment ou un autre.
Quand est-ce que vous avez commencé à échanger tous les deux, justement, avant même que l'idée de créer votre groupe ne vous traverse l'esprit?
Écoute, je vais te dire vraiment la vérité. On s'est donc rencontré, j'étais assistant de son père, que j'entendais toujours parler de lui. Un jour, il est venu pour, je sais plus pour quelle raison. Et je pense que 7 minutes après, on était dans le bureau de la secrétaire en train de faire des photocopies, comme dans les films américains. On a échangé, je pense, à la 7e minute.
Et vous parliez de quoi, Hubert? Vous savez de quoi vous parliez?
Non, là, c'est un peu dur. On s'est surtout marré, en fait. Oui, on parlait de films, c'est surtout la rencontre où il y a immédiatement le match de l'humour. Et une sorte de coup de foudre, en fait, mais masculin.
Et musical, déjà?
Ouais, très, très rapidement.
Très vite, mais c'était d'abord pote, quand même, parce qu'on était jeunes, et c'était quand même déjà un truc de copain, on rebondissait sur les blagues en disant, tiens, c'est marrant, il a le même genre d'humour que moi.
Ouais, et je me rends compte maintenant que ton truc de l'échange est bien, que votre truc de l'échange est bien, parce que je vois qu'on a beaucoup échangé, justement, cette culture musicale. Moi, j'arrivais de province d'Aix-les-Bas, en Savoie, et j'écoutais du speed metal, ou des trucs comme ça, du punk rock. Hubert écoutait des trucs beaucoup plus funky. Et je me souviens très bien, on est parti assez rapidement en vacances ensemble. Et là, j'ai la claque où il m'a fait écouter un morceau de Sly Stone qui durait 13 minutes, qui s'appelle Sex Machine. Et ça a complètement changé. Et c'est là où, changé ma vie bien évidemment, c'est là où cette notion d'échange rentre en compte, comme des amis qui se font écouter des trucs.
Mais nous, comme on est copains et qu'on travaille ensemble, en fait, on a perpétuellement depuis 30 ans échangé notre intuition, notre savoir-faire en musique, et aussi dans nos personnalités qui sont très différentes et qui vont bien ensemble, des choses de la vie.
Puisque vous citez des artistes qui ont changé votre perception, votre vie aussi. Il y a eu MC Solar quand même. Quelle a été votre contribution au son si particulier des premiers morceaux de MC Solar, Cassius?
Ouais, le premier morceau de MC Solar a été fait par Jimmy Jay. Moi, ils m'ont appelé pour le mixer, grâce à Hubert. Et en fait, on s'est retrouvé à faire Bouge de là, qui est devenu un gros carton. Et très vite, pendant les séances, étaient tellement drôles. On dormait au studio, c'était toute une bande, il y avait une tonne de gens. J'ai tout de suite appelé Hubert, déjà pour le remercier de m'avoir branché sur ce projet. Puis je lui ai dit, mais viens, passe. Et lui, il faisait tout le temps des beats chez lui. Des beats étant des musiques, quoi, avec beaucoup de samples de jazz. Et je sais pas, au fil de la discussion, à un moment donné, Jimmy Jay et Solar ont dit, mais c'est vrai, tu fais des morceaux. Hubert en a mis un, qui était en fait celui qui est devenu KSM Le Vent Récolte Tempo. Et en fait, cette équipe s'est fait comme ça. Et après, on a fait les trois premiers albums comme ça.
C'est l'origine de Cassius.
C'est indirectement l'origine, mais disons que l'histoire telle qu'elle s'est passée est finie à créer Cassius indirectement.
Ouais, c'est vrai.
À quel moment est-ce que vous avez dit, il faut qu'on crée un groupe?
En fait, lui, il avait on s'appelait, on avait une sorte de forme de nom pour notre production team, c'était la Funk Mob, ça s'appelait. Moi, j'étais juste mixeur, mais moi, je voulais pas faire de musique à l'époque. Vraiment, c'est en découvrant la rave et la techno, tout ce truc-là, où je me suis dit, oh là là, mais en fait, j'adore le hip-hop, j'en foutais un petit peu. Et là, à ce moment-là, on s'est regardé tous les deux, mais on a dit, bon, il faut qu'on fasse des morceaux. Et Hubert m'a demandé de faire un truc pour la Funk Mob. On a commencé à faire ça, mais c'était chouette, mais c'était un peu anecdotique.
Ouais, la Funk Mob, c'était un premier pas où on se retrouvait tous les deux libres. Parce qu'en fait, on avait toujours, quand on a travaillé ensemble, on était libres, mais c'était toujours dans le cadre de la production de Solar. Donc, c'était pour un artiste, pour sa carrière. Et là, on se retrouvait à faire de la musique pour nous deux, avec aucune règle, enfin personne pour nous dire bah non, là je peux pas le chanter, je peux pas le faire, on pouvait faire ce qu'on voulait.
C'est intéressant quand même à vous entendre la même discuter, c'est votre complémentarité. Moi j'aimerais savoir par exemple, Hubert, qu'est-ce qu'est pour vous musicalement, techniquement, le point fort de Philippe, qui crée cette complémentarité?
Le point fort,
ouais.
Je résumerais ça sous une forme de, ce serait un peu comme un général sur un champ de bataille, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment, si on, qu'est-ce qu'on, où est-ce qu'on tire, quand est-ce qu'on y va, moi s'il me demande,
D'ailleurs, c'est le moment de tirer.
On perd la bataille. Et avec Philippe, ça perd, je sais, j'ai confiance, je sais qu'avec lui, en tout cas, je sais pas si on va gagner, je m'en fous, mais on arrive à la fin.
Et inversement?
C'est un très très bon soldat, parce qu'on va rester dans...
Bon, en ce moment, je suis dans la guerre.
C'est un très très bon soldat, vraiment. Non, la musicalité d'Hubert est folle. Pour moi, c'est ça qui est génial, parce qu'on est justement dans cette musique électronique, dite électronique, où on est censé ne pas être musicien. C'est assez chouette d'être simili-musicien, parce qu'on est quand même des simili-musiciens, moi encore moins. Mais il y a une musicalité assez folle. Et quoi qu'on lui jette à la figure, il va arranger ou trouver une façon d'apporter un truc à la musique. Pour donner un ordre d'idée, voilà, je vous donne un ordre d'idée. Les gens savent tous qu'il y a des bassistes dans la ville. Et souvent, les bassistes font des notes pour tenir l'harmonie. Et il y a certains bassistes, genre Paul McCartney des Beatles, qui lui fait tout le contraire, il apporte à la chanson. Et ben Hubert serait une sorte de mec comme ça, c'est-à-dire il va apporter quelque chose à la chanson musicalement. Après, je vais pas dire que ça, général, soldat, ce que
si,
tu veux.
Si, non, mais Paul McCartney, ça me va.
Bien se marrer, c'est cool.
Merci.
On se marre bien aussi.
En tout cas, sans votre rencontre, sans tous ces échanges qui se sont produits par la suite, Cassius n'aurait pas existé, évidemment. Le monde entier aurait peut-être un petit peu moins dansé, parce que Cassius, pour ceux qui ne le sauraient pas encore... Bah c'est Toup Toup. Ah puis c'est aussi de l'amour, tellement d'amour. C'est mes 20 ans, 1999. Mais en 20 ans, justement, Cassius, comment vous l'avez vu évoluer, votre son, vous qui êtes assez technique, justement, ouais, dans votre approche du son?
Eh ben, je vais te dire, c'est à l'instant même, je viens de le voir évoluer, ouais, pour la première fois, j'écoute, comme ça, on me compte, avec le casque, trois morceaux différents qui ont chacun presque d'une décennie, chacun différent. Je n'ai pas vu passer ce truc. C'est toujours là, j'ai l'impression que c'est toujours
en
la
fait,
même chose.
J'ai l'impression qu'on travaille quand même un son, comme si on parle d'une matière brute. J'ai l'impression qu'on travaille au fur et à mesure du temps. Le studio qu'a eu Philippe aussi sur ses 20 ans, il a eu son propre moteur basse, a vachement amené, sur différents albums aussi, est devenu un peu le troisième homme, le troisième membre du groupe. Et en fait, on a vraiment évolué, je pense, au niveau du son. Et après, on est parti dans les chansons. C'est un peu parti. On a fait beaucoup de directions.
Mais qu'est-ce qui fait un bon son pour vous, en fin de compte?
Il faut que
l'émotion.
Il faut qu'il y ait une émotion qui passe en même temps qu'on ressente quelque chose un peu. Moi, il y a un truc que je trouve magique, c'est les concerts, les raves, les boîtes de nuit, les trucs comme ça, parce que on se retrouve avec 300 personnes, 500 personnes, 8000 personnes, 20000 personnes à vivre exactement la même chose au même moment, ce qui est hyper difficile avec un livre. Bon, ça peut arriver dans les salles de cinéma, mais
20000 personnes rarement.
Voilà, exactement. Et donc, j'ai envie un bon son, c'est ça, c'est qu'on puisse ressentir tous quelque chose en même temps, qu'il y ait une émotion très forte, et en même temps qu'on en prenne quand même un coup dans le ventre avec des bonnes basses, des bonnes aigus, et puis voilà.
Donc c'est indissociable quand même de l'évolution de l'industrie de la musique. Est-ce que vous diriez que les sons qui sont créés et produits aujourd'hui sont d'une manière générale d'une qualité inférieure à ce qui se faisait quand vous avez débuté dans l'industrie musicale au début des années 90?
Je ne dirais pas inférieure, disons que ça simplifie. On essaie d'aller vers le de plus en plus simple pour aller de plus en plus vite et de plus en plus créatif et de plus en plus productif. Mais
au risque?
Après, au risque, non, il y a quand même toujours le risque, c'est que tu peux te passer de certains professionnels pour commencer. Et en fait, l'air de rien, c'est quand même, pour moi, il y a un peu une équipe.
Oui, puis au risque de... Mais non, moi, je trouve que c'est donner tout d'un coup la possibilité à tout le monde de pouvoir faire de la musique, chose qui était impossible avant, je trouve ça fabuleux. C'est fou par rapport à nous, ce qu'on vit, puisque on était des gars de studio, tous les studios ont fermé, etc. Alors c'est très, très triste pour cette raison-là, mais le fait que 800 personnes, je sais pas combien de pourcents de plus de gens peuvent faire de la musique chez eux dans un petit ordinateur et se donner leur chance.
L'idéal, c'est magnifique. Que par contre, ils la fassent que chez eux.
Voilà, ce serait fantastique.
Parce que sinon, il y a quand même, voilà, c'est ce que je peux dire.
L'arrivée du son numérique, qui dans de nombreux cas a complètement supplanté l'utilisation de l'analogie, qu'est-ce que ça a changé pour vous?
Ça a tout changé. Cassius. Pour nous, pour tout le monde, tout changé. C'est complètement tout changé. C'est-à-dire que tu peux fabriquer justement un disque. Le son et le fait de pouvoir le transporter comme ça dans la Wi-Fi à une vitesse folle, elle change tout.
Mais ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on peut quand même aussi chez soi faire des choses qu'on ne pouvait absolument pas faire avant. Est-ce qu'il amène une forme de créativité supérieure? Parce qu'avant, il fallait réserver un studio, il fallait s'enfermer, tu culpabilisais si tu n'avais pas trouvé un truc à la fin de la journée. Là, tu peux passer beaucoup de temps chez toi. Avec du matériel complètement fou réduit dans un ordinateur.
Et pour vous, l'analogique et le numérique sont devenus totalement indissociables dans votre conception de la musique?
Nous, on mélange les deux, tout le temps. On adore le. En fait, tout à l'heure, quand on cherchait le son de Cassius, il y a un côté où il faut qu'il y ait un peu de saleté et un peu de sueur. On n'aime pas trop.
Saleté?
Oui. On n'aime pas trop quand c'est propre. D'ailleurs, ça s'est entendu là dans les oreilles quand vous avez passé les trois morceaux. Il faut qu'il y ait un peu de sueur. Et ça, souvent, ça viendra de l'analogique. Et le digital nous amènera le côté un petit peu plus tac-tac qui pète comme ça. Et nous, on mélange les deux. On adore
moderne,
ça.
C'est moderne, passé. Triste. En fait, on mélange tout le temps.
Voilà, triste et gay, par exemple. Hubert est très, très triste. Moi, je suis très, très gay. Après, c'est le contraire.
Et les deux produisent autant d'émotions, l'analogique et le numérique, puisqu'on parlait d'émotions tout à l'heure.
L'émotion, c'est toi, c'est la personne qui la donne.
L'émotion, c'est surtout les notes, en fait. Ouais. C'est des vibrations physiques qui arrivent dans tes oreilles, tu les reçois, tu les comprends ou pas. Ouais. Le son, tu t'en fous complètement.
Et l'analogique, finalement, non, c'est pas, tu t'en fous pas. Tout d'un coup, ça peut te vriller l'oreille et te faire arriver une sensation très désagréable, alors que si t'as un très beau son analogique, il peut justement au contraire te prendre dans ses bras comme une belle couverture en vison.
Et si vous deviez utiliser un seul outil, un seul, pour composer un morceau, ça
un
serait
marteau.
Quoi?
Moi, un marteau, tout de suite, évidemment.
Ah, c'est vrai? En guise de batterie?
Non, pour construire un morceau.
Ah, moi, je prendrais un drap en soie, comme ça, je le bougerais dans l'air et ça ferait...
Voilà. Et moi, un marteau, tu vois, c'est là où tu vois le général et le soldat.
C'est pas mal, ça.
Un bruit sexuel.
Il faudrait qu'on le fasse.
Un marteau et un drap en soie.
Eh ben bon, très bien. Vous savez que dans cette émission, il y en a une qui a jamais d'outils, qui par conséquent ne sert pas à grand chose, pour ne pas dire à rien, c'est la culture. Et son actualité poil dans la main, que se passe-t-il donc aujourd'hui, lundi 10 juin?
Le prix du livre Inter 2019 est attribué à...
Arcadie d'Emmanuel Bayamaktam.
Bravo!
Bravo!
Allez!
Aka Arkady Mouaoui, à 8h dans notre matinale ce matin. Riyad Satouf, président du jury du 45e prix du Livre Inter, a mis fin à des semaines de suspense insoutenable, entouré de ses 24 jurés et de l'impayable Eva Béton. Il a révélé le nom de la grande gagnante de cette année, c'est donc Emmanuel Bayamaktam pour Arkady, paru en août dernier chez POL, un roman troublant, hypnotique, récit d'initiation d'une jeune femme confrontée aux transformations de son corps et lancée à la conquête de ses désirs et de sa liberté. Bien joué, Moret.
Est-ce que tu crois au destin ?
Comme si tout était écrit d'avance, qu'on suivait une sorte de trajectoire.
Sa voix super pour l'anime, le plus grand festival du film d'animation au monde. Le festival d'Annecy débute aujourd'hui en Haute-Savoie. Pendant 6 jours, près de 500 films vont y être présentés, avec cette année un focus sur le cinéma japonais. Fer de lance du genre grâce au maître Hayao Miyazaki ou Isao Takahata. En plus de la compétition, il y attend les projections du très attendu Toy Story 4, du très beau J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin, lauréat du Grand Prix de la Semaine de la Critique à Cannes, et des premières images du deuxième volet de La Reine des Neiges, libérée, délivrée.
Ici, aux États-Unis, Norman Rockwell est un trésor national. C'est un artiste aimé par toutes les générations. Nous sommes très heureux qu'il soit exposé au Japon, en Italie, bientôt en France.
Let's Rockwell, dans le cadre des célébrations des 75 ans du débarquement, le mémorial de Caen propose une exposition inédite et événement au peintre américain Norman Rockwell. Près d'une quarantaine de toiles de cet artiste au réalisme teinté d'ironie et d'engagement politique seront visibles jusqu'au 27 octobre, notamment la célèbre toile The Problem We All Live With, contre la ségrégation raciale pendant les années 60, et puis Les Quatre Libertés, série de tableaux qui n'avait jamais quitté les États-Unis. On dit un grand oui. Avant que l'on s'attache, avant que l'on se gâche, elle veut qu'on sache qu'elle ira chercher notre cœur si on l'emporte ailleurs. La Queen Céline a donné ce week-end le dernier concert de sa résidence de tous les records à Las Vegas après 16 ans sur scène et 1444 concerts. J'en perds ma voix, émue aux larmes pour l'occasion, avec trémolo dans la voix, coup sur le cœur. Notre diva préférée a révélé Flying on My Own, une chanson inédite. Dès septembre prochain, elle lancera une grande tournée internationale. On attend encore l'annonce des dates françaises. Pourquoi ? Parce qu'on encore. Et le groupe Cassius, invité de Boomerang ce matin pour Dreams, leur 5e album qui sortira donc dans 10 jours. Et l'un des lieux qui, quelque part, est devenu le symbole de votre collaboration, on l'a un petit peu entendu, c'est le studio d'enregistrement. Quel lieu est-ce que c'est pour vous, Hubert Blanc, Franck Artien, vous qui êtes issu d'une famille de musiciens, un studio ?
Ah ben, un studio, c'est un peu comme une lingette, quoi. Non, une, comment dire, un truc où on grandit, là. C'est, je suis né dans un, pratiquement dans un studio, donc c'est quelque chose qui c'est un élément naturel, en fait.
C'est là où vous vous sentez bien.
Ouais, c'est marrant. Ouais, ben, bien que maintenant, je préfère travailler chez moi. Ayant commencé très
c'est
tôt à y aller.
Justement pour ça.
Ouais. Voilà, c'est que
je
ne retrouve plus l'excitation folle. Sauf quand on se retrouve tous les deux et que qu'on avance sur le 10, mais par exemple aller au studio ne déclenche plus chez moi
Philippe.
Moi c'est n'étant pas né dedans et en rêvant de faire ça, c'est ça là où on s'est retrouvé quand on s'est rencontré avec Hubert. Il vivait la vie dont je rêvais, je vivais une vie, enfin on avait toujours tous les deux plus ou moins la même vie mais pas au même endroit. Et moi, je continue à adorer le studio. Bien évidemment, j'y passe beaucoup de temps.
Puis vous avez commencé en tant qu'ingénieur du son aussi.
Ouais, en tant qu'assistant ingénieur du son, j'ai voulu avoir un studio. Même, je suis venu à Paris en pensant avoir un studio. Moi, ce que j'aime, c'est il y a un côté secret, il y a un côté magique. J'ai l'impression qu'on est en train de faire des choses. On est chez le gars qui transforme le plomb en or. On n'a pas tous le droit de rentrer, mais on a l'impression qu'on pourrait quand même rentrer. C'est pas un tribunal non plus. C'est pas non plus une prison. Mais voilà, moi, j'ai toujours aimé ça.
Ah non, mais il y a toujours ça. Hein,
je sais que tu l'as toujours. C'est pour ça que tout à l'heure, je souriais à Hubert. Quand il vient, il est tout content.
La qualité. Je ne ferai pas chez moi entier tout seul. C'est horrible.
La qualité sonore d'un enregistrement, ça tient à quoi pour vous?
Tellement d'éléments. C'est un truc vraiment pyramidal. Il faut que les gens jouent bien. En premier, le musicien. Nous, on a découvert ça. C'est un vieux cliché de dire ça, mais par Mathieu M. S'il venait là, d'ailleurs il est venu,
ouais.
Et tu lui donnes une guitare à 35 euros en plastique, une guitare à 160 000 euros en je sais pas trop quoi, le son sera jamais très différent. Il va beaucoup venir de ses doigts, donc le musicien, ensuite le micro qui va capter l'instrument, comme on disait,
exactement.
L'ampli, la personne qui le fait aussi, parce que c'est tout un art, quand on pense aux enregistrements de jazz de Rudy Van Gelder,
c'est toute une chaîne.
C'est tout un truc qui fait qu'à la fin on a un son son et que les gens, là, par exemple, qui sont en train d'écouter, ça se trouve, il y a un fan de John Coltrane, et il est chez lui, il met son casque, qu'il a payé une fortune, il écoute ça en pleurant.
Mais la magie du truc, c'est qu'une fois que tu as tout ça, il faut quand même qu'il se passe quelque chose.
Voilà.
C'est-à-dire qu'il faut que tes notes, tes fréquences soient en accord avec celui qui, ou ceux qui les jouent, qui les chantent.
Voilà.
Tu peux avoir les meilleurs du monde si tu fais un truc. Il peut ne rien se passer.
Et puis, exactement, c'est un lieu formidable d'expérimentation aussi.
Exactement.
Le studio. Ouais. À quelles expériences sonores est-ce que vous êtes livré sur ce cinquième album, par exemple?
Très, très peu d'expériences sonores, finalement.
On a imposé une forme de fabrication, en fait. On est parti d'un point A jusqu'au point Z, mais on était dans un cadre. C'était la première fois que c'était une idée de Philippe.
C'est-à-dire,
très, très bien.
Voilà, on voulait que l'album soit, se suive. C'est-à-dire que ce soit comme une cassette. Quand on était petit, Hubert faisait des cassettes, ma sœur faisait des cassettes, etc. Tu sais, ces cassettes où tu mets des heures à faire tes petits enchaînements. Donc, en fait, finalement, on a fait chaque morceau, par exemple, le quatrième morceau. Quand on allait faire le cinquième, on commençait le cinquième, qui devait aller bien avec le quatrième. On devait lui faire une belle fin, une petite liaison, un machin. Ça, c'était assez drôle à faire. Ça nous était jamais arrivé.
Un peu comme une pièce de théâtre. J'imagine que tu peux commencer par la fin, mais tu commences quand même un peu par ton... Enfin, je sais pas. C'est un peu comme une écriture.
Et Cassius, est-ce que vous diriez que notre époque est fertile en termes d'innovation sonore? Justement, dans ce que vous écoutez un peu.
En termes d'innovation sonore, non. Je pense qu'elle a été plus à des différents moments, mais ça dépend des moments et ça va redevenir.
En fait, elle est fertile techniquement. Et le problème, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, comme l'accès est très rapide et aisé, on a tendance à mettre de côté, enfin, en majorité.
L'expérimentation.
L'apprentissage de la musique, des notes. C'est-à-dire que, ça, c'est un moment, il faut aussi savoir jouer un peu pour surprendre.
Et ça, c'est un truc, mais il y a aussi l'autre chose, c'est pour rentrer dans un détail un peu plus technique, je dirais, il y a des bibliothèques de sons maintenant qui se donnent, un peu comme il y a des bibliothèques d'images qui se donnent. On peut le voir, on prend un magazine, on regarde les pubs, il y a quand même une sorte de, il y a souvent des lignes directrices. Il y a des bibliothèques de sons que tout le monde prend, et donc, au final, malheureusement pour ça, mais ça, j'ai pas du tout envie d'entrer des trucs réactionnaires, je pousse toujours les kids à inventer leur propre son, ça apportera un truc quoi qu'il arrive à leur musique.
Et dans votre bibliothèque sonore à vous, vous l'avez un petit peu dit, il y a du hard rock par exemple, on le retrouve,
le
hard rock aujourd'hui dans les morceaux de Cassius.
Moins cette année, mais dans le tout tout, on l'avait un petit peu quand même.
Ce qu'on peut retrouver dans l'esprit hard rock, c'est le côté, ça va un peu dans le rouge quoi.
Ça veut dire quoi aller dans le rouge?
Il y a des vumettes, des potentiomètres, il y a un niveau, on dit, ah, faut pas que ça aille dans le rouge, c'est un mec en blouse blanche qui est tout angoissé, et puis en fait, si tu colles dans le rouge, tu dis, oh, en fait, c'est pas mal. Et c'est ce côté un peu qu'avait, pour moi, qui écoutais pas du rock, le mec qu'on avait rien à foutre, qui arrivait, waouh, qui mettait tout à fond, et on trouvait ça génial.
Et
contrairement
que ça sature,
au mec de la
voix. Mais que ça sature à tous les niveaux, que ce soit sonore, mais aussi
philosophiquement,
que ça aille dans le rouge.
Philosophiquement, c'est plus on va au bout d'un truc.
Voilà.
Et est-ce que dans Let Me Be, le premier extrait de votre nouvel album, il va un peu dans le rouge? À certains
Il va moins dans le rouge, mais il va un peu dans le rouge, quand même. À un certain niveau, Hubert.
Parce que, c'est un moment, on a fait 8950 versions de
cette
version, cette seule. Mais bon, donc, on allait
dans
le rouge. Nous, humainement, on allait dans le rouge.
C'est Hall qui nous a sauvés quand elle est arrivée en trouvant. Parce que nous, on avait ce morceau depuis un moment, et on cherchait des bouts, la chose qu'on avait, c'était ce petit. On avait chanté nous-mêmes. J'aurais pu amener cette version.
Mais il y a combien de versions? Il y a vraiment 1800?
Non, 1800.
Non, exagéré. J'ai un petit peu, mais peut-être 30.
Je vous propose qu'on en écoute une, quand même. Ensemble. Ah bah, évidemment. Dans la Maybe, premier titre extrait de votre nouvel album Dreams, donc vous êtes sur France Inter avec Cassius, vous ne rêvez pas. On est lundi. Thank you.
Prend sur France Inter. Augustin Trapenard.
C'est-à-dire qu'ils ont cet air de vieux compère, vous savez, éternel complice, que l'on retrouve immanquablement dans la grand-rue, bras dessous à l'épicerie buvette, sirotant une mauresque, ou assis sur un banc vermoulu de la place du village à se moquer des joueurs de pétanque, de molki ou de croquet, le même regard rieur, le même sourire en coin. On pourrait les croire jumeaux si l'un d'entre eux n'avait pas le crâne si nu. Avec leurs blousons et leurs sweatshirts, ce matin, les musiciens et producteurs Philippe Sdard et Hubert Blanc-Francard, le duo Cassius, invité de Boomerang pour ce nouvel album Dream, qui sortira dans 10 jours, et ce morceau dans la Mibi qu'on vient d'entendre, j'aimerais qu'on en parle un petit peu plus en détail. De quoi est-ce qu'il se compose? De quels sons? De quelles lignes mélodiques, justement?
Alors justement, on a bien cherché pendant des années ce morceau. C'était toujours comme une sorte de lame de fond, ou un serpent de mer plutôt. Puis un jour, on a acheté un synthé pour te dire, voilà, on en parlait tout à l'heure, parfois tu as un instrument qui te fait avoir envie de faire quelque chose. Et d'Yvan Allen, il y a une guitare qui lui a donné envie de faire Eruption. Et voilà, et nous on a eu un synthé, puis Hubert a fait cette petite mélodie, tout. Et puis on a notre ami Hall, à qui on a envoyé le morceau et qui nous a trouvé cette petite mélodie dessus. Et puis en fait,
ce qui est marrant, c'est qu'en fait, il est né sur une ligne de basse et on l'a gardé cet instru grâce à la basse. Donc comme quoi, il peut y avoir, parce qu'il y avait une mélodie dans le, et comme quoi, si tu peux avoir une chanson qui part aussi d'un élément assez simple.
Qu'est-ce qui vient en premier, monophonique d'habitude? C'est vraiment trois notes, un accord?
Non, c'est la plupart du temps, c'est de l'accident en fait. C'est des accords que mis ensemble, ou ça part, on commence sur une batterie, tu vois, avec une basse, ou je sais pas.
Il y a mille façons
de commencer.
Des fois,
un bout de disque, comme on faisait avant, on prend un sample. Oh, ça c'est bien, on sait qu'on le gardera pas, mais il inspire harmoniquement, il inspire dans la
On prend plein de coups de notes dans nos petits téléphones, tu regardes un film, t'as un petit bout d'un truc, tu dis « Ah, ça pourrait être une super début », tu essaies de le décrire un peu comme la façon dont tu nous as décrit il y a deux secondes. On dit « Voilà, il y a ce passage dans le film où le mec met son par-dessus, il faut absolument que je trouve un truc qui ressemble à ça », et après on cherche, jusqu'à ce qu'on arrive à avoir un par-dessus.
C'est comme ça.
Et après on cherche, on travaille, on tâtonne, ça prend énormément de temps.
Énormément de temps, mais beaucoup moins maintenant. Là on a vieilli, on en a marre.
Ce qui est pas mal, c'est qu'il y a en fait ça peut prendre énormément de temps quand tu as envie que ça en prenne. Et là, comme on fait ça comme depuis un long moment maintenant, on arrive à savoir qu'on peut aller assez vite si on ne réfléchit pas trop.
C'est important de se fixer parfois une contrainte de temps, parce que je sais que pour cet album, vous avez passé assez peu de temps en studio.
On s'était fixé une contrainte. Moi, j'avais fait un album de Franz Ferdinand et on savait tous les deux, en plus il faisait beau dehors et tout, et on savait tous les deux qu'on pouvait rester genre 3 ans, parce qu'on a fait comme les deux albums de 3 ans. Et j'avais dit à Hubert, tu sais, on a fait cet album de Franz Ferdinand en 6 semaines, j'arrive pas à y croire, viens, on essaie de faire pareil. On a fait pareil, ça a duré 3 mois, donc c'est plus que 6 semaines, mais c'est pas grave du tout, 3 mois par rapport à 3 ans. Et effectivement, c'est fabuleux. Et tout d'un coup, je pense que pour la première fois, on a réussi un peu célèbre dans notre vie. On dit toujours, oh, il faut qu'on lâche prise. Où on a lâché prise, mais on n'avait jamais lâché prise finalement. Et là, j'ai l'impression qu'on a un tout petit peu.
Ouais. Et puis, t'as aussi.
On s'en fiche un peu.
Moins d'affect.
Quand tu passes pas 3 ans.
Parce qu'il y a un affect négatif quand tu passes trop de temps sur quelque chose.
C'est passionnant.
T'es plus du tout capable, à la moindre critique. Quoi? Comment ça s'arrête? Tu fais une crise de.
Mais qu'est-ce que ça représente, en fin de compte, le temps pour un artiste?
C'est le plaisir. Moi, je peux passer 9 heures à faire pouit avec un synthé. J'aime ça. Donc, c'est ce que je fais chez moi.
D'ailleurs, Hubert, il fait ça en slip.
Et en slip.
Toujours. Hein. Beaucoup de
la fenêtre ouverte. Non, c'est
trop d'informations, Cassius. Trop d'informations. Quel regard est-ce que vous portez sur ce que vous étiez il y a 20 ans, Cassius?
Je me marre bien. J'ai vu des films. Je me marre bien.
Ouais, il a récupéré les films. On a 300 heures de films.
On était deux sacrés boulets quand même.
Boulets.
Non, mais boulet de la vie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vivrais pas avec moi.
Ah, ben moi, je supportais pas le mec d'il y a 20 ans, et encore moins celui quand j'avais 20 ans. Je me souviens de ce que je faisais, là, justement. Peut-être qu'on peut en parler ce matin.
Bien sûr,
pas.
Non,
on
n'a pas
une autre fois.
Mais qu'est-ce qui vous animait?
On va faire une émission de nuit.
À l'époque.
Ah, la musique, enfin, moi, ça a toujours été la même chose.
La musique et l'amour, ça a toujours été l'amitié, la musique et l'amour.
Un peu, l'émotion, en fin de compte. L'émotion, susciter une émotion.
Oui, c'est ça, en fait.
Et la susciter, mais aussi la ressentir.
À recevoir.
L'échange, encore une fois.
Ça vous arrive de pleurer en écoutant de la musique?
Tout le temps.
Vraiment?
Oui.
En écoutant quoi?
Pharoah Sanders.
Je me suis mis très tardivement aux sonates des grands musiciens, et je pleure comme un vieux coiffeur.
Comment ça, mon grand-père, coiffeur.
Je ne vais pas chez le coiffeur.
Mon oncle, coiffeur.
Et comme je ne vais pas chez le coiffeur depuis 30 ans, je les déteste. Je les déteste. Ils sont que deux cheveux, j'ai pas de cheveux.
Ouais, ça, c'est pour ça, effectivement.
C'est pour ça, je viens de comprendre.
Vous voyez, on va pas vite ce matin. Moi, je vais vous dire, j'ai presque envie de pleurer.
Ouais, j'ai dû expliquer ma blague.
Je vais pleurer, là,
c'est oui, parce que vous nous avez fait un cadeau, Cassius. Et ben oui.
Ah, c'est un cadeau pour qui fait qu'on a des grosses cernes cette nuit.
Philippe a un ordinateur devant lui, à ma gauche. Hubert regarde d'un œil averti. Et derrière moi, une certaine Hall a fait son entrée dans le studio. Hall, dont vous nous avez parlé, dont on a entendu la voix sur le morceau qu'on a passé tout à l'heure. Et qu'on va réentendre ce morceau dans une autre version.
Exactement.
Grâce à vous.
Ouais.
Alors, on s'est dit. Vous qui le lancez?
Ouais, je vais le lancer. En fait, on voulait montrer. Un petit cadeau pour vous parce qu'on est en train de le faire et on l'a bossé jusqu'à tard cette nuit pour vous fabriquer. C'est un petit remix. Et oh, la gentillesse extrême de venir chanter avec nous sans même avoir répété une seule fois. On y va.
Allez.
Les trois, Cassius.
Merci France.
Merci Hall.
Merci Hall.
France Hall en direct ce matin dans Dumont. Merci à Julien Dumont aussi pour la prise de son ce matin.
C'est vrai, bravo.
Et merci d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que votre album Dream sort donc le 21 juin, que vous serez en concert le 6 juillet au Wanderlust à Paris, mais également le 14 septembre à Strasbourg, le 18 octobre à Toulouse, un peu partout en Europe et aussi outre-Atlantique. Tout de suite les médias. Sonia De Villard qui est en montée. Et
merci à toi. Hein.
Comment ça, je suis en montée? J'ai récupéré tous les jurés du prix Inter.
Ah, c'est pas vrai?
Ah, si.
Ah, bah, c'est super.
On est 750 en studio. Ah, bah, salut, super. Augustin.
On vous
à demain.
Écoute. Salut.